L'Afrique enchantée à la Fiesta des Suds, ce dimanche à 17h sur France Inter.
Voilà.
Voilà.
France Inter. La différence.
15h et presque 4 minutes sur France Inter, l'heure de là-bas, si j'y suis avec Daniel Mermet.
Oui, bonjour l'équipe, c'est Wilfried du Tarn. C'est pour une annonce du repère de Castres dans le Tarn, mercredi 30 décembre, pour ceux qui le peuvent. Nous nous réunissons pour préparer les prochains thèmes des cafés repères de Castres. Venez proposer vos idées au Kiwi Bar, place de l'Albenque, à partir de 19h30 à Castres. Merci à l'équipe de là-bas, et merci à tous, et ciao.
Salut Daniel et toute l'équipe, c'est Christian de la Loire. J'ai entendu hier soir à l'émission Le Téléphone Sonne sur la décroissance quelqu'un dont je ne sais plus le nom qui a dit quelque chose qui m'a semblé résumer toute la situation. Il a dit l'avenir de l'humanité, grosso modo, c'est le partage ou la violence. Après avoir vu ce qui s'est décidé à Copenhague, je pense qu'on sait maintenant ce qu'ont choisi nos dirigeants. Voilà. L'avenir n'est pas joli joli. Salut les gars, on vous aime.
Au journal de 13h de ce mardi 29 décembre, quatre sujets se succédaient qui parlaient dans le fond de la même chose. Échec de la lutte contre le tabagisme, exécution d'un ressortissant anglais en Chine pour trafic de drogue, renforcement des mesures de sécurité pour lutter contre le terrorisme suite à l'attentat déjoué aux États-Unis. On nous a dit à ce sujet que Hortefeux va réfléchir. Si Hortefeux se met à réfléchir, on peut s'attendre au pire, puisqu'il n'a réfléchi que les peurs de la société. Et enfin, interdiction de la marche pour Gaza au Caire par le pouvoir égyptien. Qu'est-ce qu'on entend? Toujours la même chose. Sous toutes les latitudes, le pouvoir utilise toujours les mêmes moyens. Contrôle renforcé, sanctions, répression, interdiction. Et dans ce domaine, il faut d'ailleurs déplorer que la gauche n'a pas plus d'imagination que la droite. Quand est-ce que les pouvoirs publics comprendront que ce qui est obtenu par la force n'est jamais obtenu? Comme l'écrit Rousseau, céder à la force est tout au plus un acte de prudence. Quand est-ce qu'ils comprendront que la force, fût-elle publique, est le pire des moyens utilisés pour édifier la civilisation? Quand est-ce qu'ils comprendront que la violence institutionnelle est la pire des violences, car elle est le fondement de toutes les autres? Contrairement à la célèbre et stupide formule d'Alphonse Karr, la peine de mort que les assassins commencent. Il est essentiel de comprendre que pour que la violence cesse, il faut que l'État commence par ne plus en faire usage. C'est au pouvoir public, aux institutions, qu'il revient de montrer une autre voie que celle de la violence. Moi, je pense qu'il faudrait créer un mouvement ou une association de lutte contre la violence institutionnelle pour mettre fin à des méthodes qui n'ont jamais obtenu d'autres résultats que la perpétuation de l'horreur, de la terreur et du crime. Si vous rêvez d'une humanité civilisée, commencez par vous civiliser vous-même. Parce que lutter contre la barbarie avec les armes des barbares, ça ne fait pas progresser la civilisation. Ça ne fait qu'entretenir la barbarie.
Bonjour, c'est Christiane, fidèle aux émissions de Daniel Mermet, que j'apprécie beaucoup. Tout d'abord, côté positif, je voulais montrer mon enthousiasme pour ces émissions sur l'Inde. Je serais bien partie dans ces valises. Moi qui rêve d'aller en Inde depuis que je suis toute petite. J'ai écouté l'émission d'aujourd'hui et franchement ça m'a pris au ventre parce que comparer les gens par rapport à la médecine en parlant de médecins et chirurgiens, ces managers de transition qui exercent de cette manière-là. Moi qui suis aide-soignante, franchement j'ai pas du tout le même regard par rapport aux patients. Et là on s'adresse à des individus dans un milieu professionnel qui est toute leur vie. Franchement ça m'a un peu dégoûté. À bientôt, bonne année à tous.
Bonjour, c'est Elvis d'Alfortville. Bah, je voulais réagir à l'émission d'aujourd'hui sur les managers de transition. Je suis pas étonné par ce qui s'est dit, hein, par ce qu'on dit les managers de transition en question. Je suis pas étonné, mais je suis scandalisé quoi, par ce petit mec là qui fait un boulot complètement inhumain. J'ai pas l'habitude de blâmer ceux qui font le sale boulot à la base, les employés qui sont à la solde du capitalisme destructeur. C'est vrai, c'est des victimes aussi, quoi. Ils essayent de sortir du mieux qu'ils peuvent, mais au moins qu'ils soient pas cyniques, quoi. Le manager de transition est un chirurgien. Il faut parfois amputer pour guérir. Je suis presque désespéré, quoi. C'est très significatif, je trouve. La société sarkozienne est tellement décomplexée qu'on entend de plus en plus ce genre de cynisme et ça ne choque même plus, quoi.
Oui, bonjour, Daniel Mermet et la Bosse, et j'y suis. Voilà, je réagis à cette émission que tu viens de faire sur ce type qui fait des, qui parle des plans sociaux et des licenciements, etc. Et qui apparemment n'a pas d'état d'âme, quoi. Alors, je crois que les gens vont faire des gorges chaudes et vont dire c'est la faute au capitalisme, aux actionnaires, etc. Mais ce que ce type-là dit très bien, c'est qu'il obéit. Et en fait, ce qu'il faudrait mettre en évidence, c'est ce principe d'obéissance, justement, qui préside à son discours. On pourrait rapprocher son discours de celui d'un nazi qui va mettre des juifs dans un train et qui va dire au procès de Nuremberg, c'est pas moi, j'ai obéi aux ordres, etc. Et je crois que ce parallèle, c'est tout le propos du film La question humaine, justement. Je crois que personne n'a jamais aussi bien mis en évidence ce principe d'obéissance que le psychologue américain Stanley Milgram. Et moi, j'aimerais, si tu ne l'as pas déjà fait, que tu fasses des émissions, au moins une émission sur cette expérience de soumission à l'autorité de ce psychologue américain qui, pour moi, est vraiment au cœur, en tout cas, du discours qu'on vient d'entendre dans ton émission d'aujourd'hui. Merci, là-bas, c'est Jésus, à bientôt.
Bonjour, c'est Anne de Strasbourg, je suis professeure de management en terminale et j'aurais une question vraiment stupide. Comment réutiliser la diffusion d'aujourd'hui de l'émission là-bas si j'y suis sur les plans sociaux qui était vraiment super, je voudrais la réutiliser dans mon cours de management pour sensibiliser les élèves à cette exigence, cette avidité des actionnaires. Je me permets de vous laisser ma ligne fixe, vous pouvez me rappeler. Merci, c'était très bien. Au revoir.
Merci pour ces messages, chers AMG. Je rappelle que si vous voulez réécouter ou télécharger les émissions de là-bas si j'y suis, vous avez le site là-bas.org, là-bas.org. Concernant le thème de l'obéissance, de la soumission à l'autorité, on a souvent évoqué le travail de Milgram, même si, bien sûr, c'est pas toujours facile de penser par soi-même, de penser à contre-courant, c'est pas toujours facile. À part ça, que se passe-t-il ? Ben, pas grand-chose. Dans l'actualité, il n'y a quasiment pas d'actualité. L'actualité, vous le savez, est très sympa avec nous autres, les gens des médias. D'ailleurs, on l'appelle l'actu. L'obtu, c'est très affectueux. Et en ce moment, vous avez remarqué, les journalistes sont en vacances, eh bien, l'actu, très gentiment, très affectueusement, fait la trêve. Tout est suspendu. Les guerres sont suspendues en attendant que les journalistes reviennent. Les tsunamis, c'est pareil. Les avions attendent la rentrée pour s'écraser. Et les SDF qui meurent de froid sont mis au congélateur jusqu'à ce que les équipes de télé reviennent. Alors, bien sûr, le plus dur, c'est qu'on ne sait pas quoi penser. Nos chroniqueurs, nos éditorialistes, eux aussi sont en vacances. Tous ceux qui chaque jour se décarcassent pour nous dire ce qu'il faut penser. Sans eux, on est un peu perdu. Sans leur lumière, on est dans le noir. Mais heureusement, lundi, le 4, c'est le bout du tunnel. Ils reviendront bien bronzés, bien gonflés. Et ils vont nous guider à nouveau. D'ici là, tenez bon. Par exemple, si vous êtes moribond, si vous êtes sur le point de mourir, eh bien, attendez lundi. Vous aurez une bien plus jolie nécro qu'en ce moment. Regardez la nécro de Yves Rocher, mort au lendemain de Noël. Comment la nouvelle a été expédiée. L'un des plus grands industriels français, le pionnier de la cosmétique végétale, même l'Élysée s'y est repris à deux fois pour lui rendre hommage. Partout, ça a été le même article, alors qu'il serait mort deux semaines plus tard. On le mettait au Panthéon, Yves Rocher. Et d'ailleurs, puisque la famille et les amis d'Albert Camus font des manières, eh bien, qu'on laisse tomber ce Camus et qu'on mette Yves Rocher au Panthéon. Entre ici, Yves Rocher, avec tes 2000 magasins, tes 15 000 salariés à travers le monde, tes 2 milliards de chiffres d'affaires, toi qui as battu Body Shop, entre ici, Yves Rocher. Ouais, pourquoi pas un homme d'affaires au Panthéon à côté de Voltaire, de Jean Moulin ou de Victor Hugo, avec une boutique Yves Rocher devant le Panthéon. Un Français sur trois utilise un produit Yves Rocher. Hein ? Quelle pub, quel com ! Voilà qui correspondrait parfaitement avec Nicolas Sarkozy et ses amis du Fouquet's, beaucoup mieux que ce Albert Camus en tout cas. Seulement voilà, Yves Rocher est mort pendant la trêve de l'actu, et ça, il faut éviter à tout prix. D'ailleurs, on se demande comment un si grand industriel a pu faire une telle erreur de marketing. Voilà, en matière d'actualité, il se passe pas grand-chose, sauf quand même la taxe carbone. Vous êtes au courant que cette taxe carbone, qui qui est censé contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, on s'est aperçu, et c'est le Conseil constitutionnel qui s'est aperçu, qu'elle ne frappait pas les centrales thermiques, les sites industriels les plus polluants, le transport aérien et le transport public routier. C'est-à-dire que ces exemptions auraient conduit à ce que 93% des émissions d'origine industrielle hors carburant soient exonérées de contributions carbone. L'histoire est un peu grosse, on va évidemment retoucher le projet, mais ce petit incident qui passera inaperçu puisque c'est la trêve, nous amène à notre sujet du jour, à ce morceau choisi dans cette année là-bas, Home. Home, vous vous souvenez, la sortie de ce film à grand fracas, le chef-d'œuvre de Yann Arthus Bertrand. Nous l'avions évoqué à notre façon en juin dernier et nous allons le retrouver aujourd'hui. Home. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bassie. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Donc Nathalie de Lozère, bonjour à tout le monde et ben, bonne fête. J'entends l'émission aujourd'hui sur ce cher monsieur qui dit que lui, ben, le capitalisme, il est pour rien. Alors moi, j'ai une maîtrise de droit, je me suis fait lourder de la fonction publique pour avoir refusé de couvrir des emplois fictifs. Ensuite, on m'a proposé des postes de DRH, j'en ai refusé, parce qu'effectivement, on me payait très bien, 40 000 francs par mois à Bordeaux, pour faire un plan de licenciement. Il y avait sur une société de transport, de fonds, alors évidemment, il y avait des méchants cégétistes de la Poste qui étaient repris. J'ai refusé le poste, malgré ça, j'ai fait une formation. J'ai travaillé pour l'industrie pharmaceutique où j'ai pu choisir mon labo, un labo éthique, des gens qui respectaient leur personnel, qui respectaient le médecin et qui ne les payaient pas. Aujourd'hui, je peux me regarder dans la glace, je suis invalide, j'ai 1000 euros par mois pour vivre, je suis propriétaire de ma maison, je ne suis pas à plaindre, je peux me regarder dans la glace. J'ai mes idées, elles sont de gauche et j'ai ma foi, elle est protestante, et comme disait Luther, il est dangereux d'agir contre sa conscience.
Oui, bonjour, c'est Marco de Lyon. Je prends juste ma calculatrice, je fais vite le calcul. 365 jours dans une année, donc jours travaillés, 265, puisqu'on a 52 semaines fois 5 jours. Donc je fais 265 par 1500 pour le restructureur d'entreprise, égale 390 000 euros par an. 1500 x 12 pour l'ouvrier égale 18 000 euros par an, 10% d'impôt par an pour, on va dire, tout le monde, parce que je ne connais pas le montant de l'ISF. Ça reste quand même un salaire par mois pour l'ouvrier, et puis il en reste pas mal pour l'autre. Je sais plus quoi dire, si ça amène pas à une colère, je sais pas, moi je suis en colère.
Salut Daniel, salut tous les AMG, c'est Alain de Nice, voilà. Bon, ton reportage d'aujourd'hui là sur le licenciement professionnel, j'ai eu du mal à l'écouter d'une seule traite parce que c'était vraiment très très dur. Mais enfin bon, j'aurais aimé soulever quelques questions pour ce bon petit soldat là qui a été interrogé et qui se posait pas de questions. Justement, je me demandais la chose suivante, je lui pose la question, qu'est-ce qu'il aurait fait dans un camp de concentration, ce gentil monsieur-là? Il ne se serait pas posé de questions, probablement, mais enfin, je lui laisserai le soin de répondre. Et je trouve que c'est vraiment d'une très, très grande violence, pire, ça démontre l'inutilité, la vanité du dialogue entre les parties, parce que les dés sont manifestement pipés. Et puis bon, ben, je te ferai pas un plan non plus, mais ce qu'on entend dire sur la valeur des leaders syndicaux et sur leurs accointances avec les gouvernants, bien, montre que les dés sont pipés. Allez, salut Daniel, merci quand même pour tes émissions géniales.
Alors voilà, je suis sur le site youtube.com, à la page du film Home, disponible gratuitement sur Internet, et je lance la diffusion. Alors, ça commence par un ciel étoilé, l'espace, et puis un chiffre apparaît à l'écran. 88 000 collaborateurs du groupe PPR. Et puis, bing ! Les chiffres partent dans une myriade de petites étoiles qui elles-mêmes donnent naissance à des marques. Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Sergio Rossi, Stella McCartney, Alexander McQueen, Boucheron, Gucci Group, Conforama, Puma, Fnac, CFAO, Elos, La Redoute, One Stop Plus, Somewhere, Avenue, Redcast. C'est un ballet de marques. Et petit à petit, tous ces mots, toutes ces marques s'agglutinent, s'agglomèrent, s'assemblent, se donnent la main pour former à l'écran un mot. Ce mot, c'est Home.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec Renaud Lambert. Home.
Flight number 2, arriving from New York.
C'était beau. C'était très beau. C'était très très beau au début. Au début, c'était le paradis terrestre. C'était l'Éden. Et puis l'homme est apparu et là, ça a tout gâché. L'homme est apparu avec ses sales pattes et il a tout conchié. Mais au début, c'était beau, hein. C'était très beau. C'était très très beau. C'était beau comme un fond d'écran. C'était beau comme un poster géant avec le désert vu du ciel, l'oasis vu du ciel, la caravane de chameaux vu du ciel avec l'ombre bleue des chameaux sur le jaune abricot du désert vu du ciel. Poster que vous pouvez acheter sur Internet ou à la Fnac ou à la Redoute. Car oui, avant le commencement du monde, il y a des milliards d'années, avant le commencement du monde, il y avait la nuit. Et dans la nuit est apparue la Redoute. Les chaussures Sergio Rossi, Boucheron, Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, etc. Et avant, dans cette nuit, il y avait PPR. PPR qui êtes aux cieux. Printemps, Pinot, Redoute. François-Henri Pinot, le généreux bienfaiteur, l'écolo, celui qui a financé ce film qui va changer le monde, qui va changer notre rapport avec le monde. Et c'est ce dont nous allons vous parler aujourd'hui, le retour du péché originel. Il y avait l'innocence, il y avait la nature, si pure, si belle, et puis l'homme qui est arrivé avec ses sales pattes et sa conscience et son humanité. Et maintenant, il faut faire avec. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous devenir? Homme nous interroge, sans vraiment nous donner la solution. Un film énorme, projeté dans 137 pays. Et très peu critiqué. Très très peu critiqué. Pourquoi ? Pourquoi si peu critiqué ? Eh bien parce que PPR achète des pages entières de publicité dans les journaux et que PPR distribue des marques que je viens d'évoquer, des marques prestigieuses, des marques de luxe. Et au moment où la presse bat un peu de l'aile sur le plan publicitaire, on ne va pas fâcher des clients comme La Redoute, des annonceurs comme Boucheron, Gucci, Saint Laurent ou Balenciaga. Mauvaise foi, c'est possible. En tout cas, c'est jusqu'à 16h avec Renaud Lambert. Là-bas, si j'y suis, home.
Conférence de presse du 9 mars 2009. François reçoit Henri Pinault.
PPR est un groupe mondial et on dit souvent dans notre groupe
PDG de PPR.
Donner du sens à nos affaires. Ça fait pratiquement une dizaine d'années aujourd'hui que le groupe s'implique dans une démarche éthique, dans une démarche environnementale.
On a eu la chance formidable de trouver
Yann Arthus Bertrand.
François Henri Pinault qui a dit oui tout de suite avec un scénario vintage. L'étude Besson qui a dit oui tout de suite aussi, qui m'a fait confiance.
L'heure n'est plus à la plainte, mais on n'est plus à la complainte, l'heure est à l'action. Donc Anne est quelqu'un de très dynamique, très positif, très constructif. C'est un entrepreneur de l'environnement, c'est un entrepreneur artiste.
Écoute-moi, s'il te plaît. Tu es comme moi. Un homo sapiens, l'homme qui pense. La vie, ce miracle dans l'univers est arrivé il y a presque 4 milliards d'années. Et nous, les hommes, il y a seulement 200 000 ans. Et pourtant, nous avons réussi à bouleverser cet équilibre si essentiel à la vie sur Terre. Écoute bien cette histoire extraordinaire qui est la tienne et décide de ce que tu veux en faire.
Jean-Louis Borloo a envoyé 100 copies de ce film au préfet avec une note pour qu'ils organisent des projections. 10 000 DVD ont été donnés aux écoles. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des spécialistes de la propagande, puisque c'est le mot qu'il faut employer. Y a-t-il eu des précédents dans l'histoire de la propagande, de films, de produits portant des idées, des conceptions du monde, de l'histoire, du présent, de l'avenir, du rapport de l'homme à l'humanité, qui ait connu une telle distribution, une telle propagande avec un soutien de l'État. J'évoque l'intervention du ministre de l'Environnement, mais on sait que le président de la République lui-même s'est exprimé pour se féliciter de l'existence et de la diffusion de ce film. Certains d'entre vous se souviennent peut-être lorsqu'ils étaient en sixième. Peut-être parmi vous y a-t-il des enseignants qui enseignent à des élèves de sixième. Lorsqu'on fait une dissertation, par exemple, et qu'on est amené à décrire certaines choses qu'on veut dénoncer, si on s'en tient à ça, si on s'en tient à dire « ça c'est épouvantable, c'est terrible, et si ça continue, ça va être pire », sans doute que l'enseignant, le professeur dira « c'est très bien, bravo de vous indigner de cette façon ». Mais est-ce qu'il n'y a pas des causes ? Et on rendra la copie à l'élève en lui disant « très bien, mais trouvez-nous les causes, il doit y avoir des causes à cet état de choses ». Eh bien, l'auteur du film et le sponsor du film, le producteur du film ne se sont pas posé la question. Et tous ceux qui ont travaillé sur ce film n'ont pas trouvé les raisons véritables de cet état de choses, de cette destruction, de cette menace sur l'environnement, sinon la poche de soleil, c'est-à-dire le pétrole. Tout commencerait avec, non pas la découverte, mais l'usage abusif du pétrole. C'est une cause évidemment ridiculement insignifiante, il y en a beaucoup d'autres, mais qui ne sont jamais évoquées. On connaît cette histoire de l'écologie dépolitisée et de ce qu'on appelle l'éco-tartufferie. Un des rares à s'intéresser à ce sujet dans la presse d'une manière un petit peu construite, c'est Jean-Luc Porquet du Canard Enchaîné.
Alors d'abord, peut-être on peut commencer par la personne qui a réalisé le film. C'est Yann Arthus Bertrand. C'est pas tout à fait un inconnu.
Non, c'était un curé bien connu de nos services qui fait dans le prêchi-prêcha depuis maintenant quelques années. Qui, après avoir longtemps couvert d'ailleurs le Paris-Dakar, c'est un homme qui était longtemps passionné par les sports mécaniques. Il adore la Formule 1, il adore le 4x4, il adore l'hélicoptère. Enfin, c'est avant tout, c'est un ami de la machine, quoi. Avant d'être un ami de la Terre. Il est devenu ami de la Terre un peu après.
Qu'est-ce qu'il faisait pour le Paris-Dakar ?
Je crois qu'il a suivi pendant très longtemps, comme photographe.
Voilà, il fait un film et puis il a reçu un coup de main pour ce film.
Bah, il a cherché des sponsors, il a très vite trouvé par l'entremise de Luc Besson, grand ami de la planète aussi. Bon. Et donc il a trouvé PPR, c'est-à-dire Printemps Pinault la Redoute. Donc c'est un des capitalistes français les plus en vue. PPR, c'est quoi ? C'est Conforama, c'est La Redoute, c'est quelques marques de luxe, là, les bijoux Boucheron, Gucci, etc., Balenciaga, enfin bon. Ouais. C'était un empire. Et donc très vite, Pinault, donc le fils Pinault, parce que c'est une dynastie aussi, donc le François-Henri Pinault très vite lui a lâché les 10 millions d'euros sur les 12 qu'a coûté le film.
Bon, mais ça c'est super généreux, c'est énormément d'argent, 10 millions d'euros.
Oui, alors 10 millions d'euros, il faut savoir que pour PPR c'est très peu de choses, parce que c'est un groupe qui fait un bénéfice de, voilà, j'ai noté ça quelque part, voilà, qui se fait 875 millions de bénéfices l'an dernier. Donc ça fait finalement que 1,14% de ce bénéfice, c'est vraiment peanuts pour lui.
Conférence de presse du 9 mars 2009.
C'est un film qui a un vrai parti pris.
Yann Arthus Bertrand.
D'expliquer que notre façon de vivre sur la Terre n'est pas viable et qu'on a un impact sur la Terre supérieur à ce que la Terre peut supporter.
Si les entreprises comme les nôtres ne s'occupent pas de ça, je vois pas comment on va s'en sortir.
François-Henri Pinault, président directeur général du groupe PPR.
Et ce projet, c'est à la fois un contenu et un contenant. Le contenu, ça sera les images de Yann, magnifiques. C'est aussi un contenant, c'est-à-dire que c'est une diffusion mondiale, puisque grâce en particulier à Luc, qui va faire d'un projet très particulier un vrai film, et grâce aux structures d'EuropaCorp, on va pouvoir diffuser ce film, non seulement gratuitement, mais à l'échelle mondiale, sur tous les supports. C'est un film qui sera accessible à la quasi-totalité des gens, quels que soient leurs moyens, quelle que soit leur localisation sur la planète. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire.
Ministère du Développement Durable, bonjour.
Oui, bonjour madame. J'appelle pour un petit service, un petit coup de main en fait. Voilà, moi je suis marionnettiste.
Comment ?
Je suis marionnettiste.
Vous êtes marionnettiste, oui.
Voilà. Et ça marche pas très fort en ce moment.
D'accord.
Voilà. Et j'ai vu que Jean-Louis Borloo avait organisé des séances de spectacles récemment. C'est mon agent, enfin c'est mon cousin, enfin qui s'occupe un peu de moi. Et comme il voit que ça marche pas bien en ce moment, il m'a conseillé de vous appeler. Apparemment, vous avez fait diffuser un film dans les préfectures.
D'accord. Oui, allez-y.
Et je voulais savoir.
C'est mes collègues qui partaient.
Ah ouais. Oui. Je voulais savoir s'il n'y avait pas moyen de...
Vous voulez en fin de compte monter une entreprise, c'est ça ?
Non, je voudrais faire mon spectacle de marionnettes dans les préfectures.
Et on vous a dit d'appeler le ministère pour ça ?
Bah en fait, c'est mon agent, enfin c'est mon cousin, qui m'a dit de vous appeler, parce qu'apparemment c'est le ministre... comment il s'appelle ?
Monsieur Borloo qui s'occupe de ça. Alors attendez...
Moi, si je pouvais présenter mon spectacle dans les préfectures, faire passer le chapeau après, tout ça, ça me permettrait de...
D'accord.
Puis peut-être que le ministre pourrait parler de moi aussi.
Ah.
Il a l'habitude de faire ça, enfin, c'est pas...
Ah, je peux pas vous dire. Voilà. C'est mieux que vous lui écriviez, comme ça il lira votre lettre.
Il est pas là
Là, je peux pas vous passer les cabinets, et la secrétaire transmettra.
D'accord,
voilà,
d'accord.
Comme ça vous pourrez expliquer votre...
D'accord. Je lui mettrai aussi des petits... Parce que sur le film là, qu'il avait recommandé au préfet, il avait mis...
C'est
un appel à la prise de conscience écologique. Moi, je pourrais... C'est un appel à la prise de conscience de l'importance de la tradition des marionnettes en France, par exemple.
Voilà.
C'est quand même une tradition qu'on a. C'est vrai que ça serait pas mal que ça disparaisse pas, quoi.
Voilà. Ben voilà, donc...
Parce que moi, après,
si ça fait partie de l'écologie, je crois qu'il y a des aides financières aussi.
Bah moi, si vous voulez, c'est
des marionnettes.
Des marionnettes, mais je peux leur faire parler de tout, quoi. Il y a plein longtemps, j'ai fait l'ouverture de la charcuterie dans un village juste à côté. Je les ai fait parler de charcuterie. Je peux adapter. Il y a pas mal d'improvisation.
Il y a les écoles aussi. Vous pouvez essayer dans les écoles.
Ouais. Mais bon, là, comme ça va être les vacances, ça va pas être facile. Ok.
Merci. Au revoir.
Attendez. Il y a mes marionnettes qui veulent vous dire au revoir.
Au revoir, madame.
Oh, monsieur gendarme, tu as dit au revoir à la dame. Elle a été très gentille. Moi aussi, je vais lui dire au revoir. Au revoir, madame.
Bon courage, monsieur.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Et c'est là que toi, oui, toi, Homo sapiens, l'homme qui pense, tu apparais dans cette histoire. Tu profites du fabuleux héritage de plus de 4 milliards d'années que te donne la Terre. Tu n'as que 200 000 ans, et tu vas changer la face du monde.
François-Henri Pinault, PDG du groupe PPR.
Chères collaboratrices, chers collaborateurs.
Courrier adressé aux salariés du groupe.
Aujourd'hui, nous avons tous rendez-vous avec la planète.
Accompagné d'un DVD du film Home.
Chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. La planète est notre maison à tous. Elle est l'affaire de tous, le monde de l'entreprise en particulier a un rôle crucial à jouer. À nous, entreprises, de proposer à nos clients des produits qui respectent l'environnement et s'inscrivent dans la durée. Nous devons redoubler d'ingéniosité pour trouver des solutions économiquement viables qui soient aussi respectueuses de la nature et des hommes. Aujourd'hui, le film Home sort dans 130 pays, dans 33 langues et sur tous les supports, cinéma, télévision, internet et DVD. Ce film exceptionnel et son dispositif inédit de diffusion ont été possibles grâce à vous. Je vous en remercie et je suis fier que les 88 000 collaborateurs du groupe PPR soient les tout premiers ambassadeurs de cette œuvre qui marque les esprits et frappe au cœur. Bonne projection, François-Henri Pinault. 5 juin 2009. À Home. C'est pas à Paris, il l'a pas écrit à Paris. Ah oui, non, c'est, il l'a écrit à Home. Voilà.
C'est ça, c'est-à-dire que, comme on met parfois Paris le 5 juin, là, il a écrit Home. Home.
Voilà. C'est assez mégalomaniaque, hein. J'avais pas vu Home, voilà.
Écho Tartuffe. Mais oui, PPR Pinault Printemps Redoute. Une enseigne qui a récemment fourgué à pas moins de 38 000 clients des fauteuils chinois potentiellement empoisonnés au diméthylfumarate. Quelque chose de vachement écolo. Quant à la Redoute, pour assurer son service clé, le 24 heures chrono, elle fait rouler 100 à 400 poids lourds par jour selon les commandes et plus de 700 véhicules utilitaires qui desservent 27 agences. Ça fait du CO2 qui réchauffe la planète. Mais ça, c'est pour Monsieur Pinault. Mais concernant Yann Arthus Bertrand, il ne faut pas s'inquiéter. Une de ses collaboratrices déclarait au journal Terra Echo: ce n'est pas un intellectuel, elle parle de Yab. Il n'a pas de grille de lecture idéologique, sinon celle de son milieu de droite et libéral.
Richard, salarié de la FNAC.
On est capable, dans le groupe PPR, de communiquer sur des sujets qui vont rapporter de la publicité à PPR dans tous les domaines. Et
vous parlez par exemple de Home.
Je parle de Home et puis de tout ce qui entoure Home, hein, la vente de t-shirts, que seuls des gens, il n'y a aucun salarié qui pourra se payer les t-shirts Home qui seront vendus chez, je ne sais plus, chez Gucci ou je ne sais où.
Des t-shirts en jus de bois.
Voilà. Je veux dire, la réalité, c'est que les salaires à la FNAC stagnent, donc personne ne pourra se payer ces t-shirts-là.
Stylefinder.com, site de mode féminine. Home, le nouveau t-shirt en série limitée de Gucci. Idéal pour les jet-setters et les fashionistas urbaines qui ont besoin d'un haut facile à porter. Il est à seulement 140 euros et en plus, tous les profits seront redonnés à l'association goodplanet.org, l'association de Yann Arthus Bertrand. Quand la mode milite pour un monde meilleur, nous, on adore.
Royal, Sylvie, bonjour, comment puis-je vous aider?
Oui, bonjour, je travaille dans le même groupe que vous, mais à La Redoute, une autre société, et je vous appelle pour savoir si vous pouvez me rendre un petit service. Vous savez, avec le film, il y a les t-shirts Gucci là, qui ont un succès fou, il y a ma fille qui en voudrait un.
Oui.
Bon, c'est un peu cher, hein. C'est 140 euros, je crois.
Tout à fait.
Voilà, je voulais savoir si moi, je ne pouvais pas vous avoir des produits La Redoute et vous pouviez m'avoir un t-shirt.
Ah non, ils sont à 140 euros, désolé. On ne peut pas faire de...
Ouais, mais c'est un peu cher hein, pour nous.
Oui, non, mais je suis désolée. Malheureusement, c'est 140 euros, oui.
Oh là là.
Oui.
Bah, ça, et on peut pas... parce que moi, en même temps, j'ai bien... Elle, ça l'a motivée pour aider la planète et tout ça.
Maintenant, elle
accepte de fermer le robinet quand elle se brosse les dents.
Oui, mais malheureusement, je peux vous passer une personne responsable, si vous le souhaitez, mais elle va vous confirmer ce que je vous dis.
D'accord. Bah, je veux bien, ouais.
D'accord, n'inquiétez pas. Oui, Hélène, bonjour, comment puis-je vous aider? Mais malheureusement, c'est le prix qui est fixé.
Ouais, c'est pas super facile hein, de faire un geste pour la planète comme ça. Quoi.
C'est pas évident, malheureusement, mais c'est vrai que c'est des t-shirts qu'on a très bien vendus sur des clientèles internationales ou des choses comme ça. C'est vrai que même moi, personnellement, en étant employée chez Gucci, je l'aurais bien pris, mais effectivement, à ce tarif-là, je me l'achète pas. Donc voilà. Au revoir.
Et quand M. Pinault dit qu'on a participé à ce projet, tous, mais c'est, oui, effectivement, on a participé à ce projet parce que, effectivement, dans les entreprises du groupe PPR, les salaires sont bloqués, les gens travaillent dans des conditions de plus en plus détestables, hein, les emplois sont supprimés, voilà, voilà, c'est payé. On a l'impression d'être, voilà, quantité négligeable et rien d'autre, quoi.
Si vous aimez le papier peint, si vous aimez les fonds d'écran, vous allez aimer Home. Vous allez aimer ce film avec ses paysages et ses images que vous connaissez déjà par cœur et une voix qui, dans la version d'une heure et demie, vous parle pendant une heure et demie et dans la version de deux heures, vous parle pendant deux heures. Une analyse et une critique de Paul Ariès, auteur de « Apprendre à faire le vide » et directeur du journal « Sarcophage ».
C'est vrai que ce film est beau, mais je dirais que cette beauté est un choix politique. Là, le choix de cette beauté froide, plastique, c'est finalement celui d'une nature sauvage, je dirais, dans lequel les humains n'auraient pas place. La représentation de la nature qui est donnée n'est pas celle qui nous semble être capable de porter un projet politique d'émancipation. Je veux dire, Arthur Bertrand, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit finalement que dame nature, ça serait finalement quelque chose qui devrait s'imposer à nous. Et finalement, au lieu de l'avoir maîtrisé, de l'avoir dominé, il faudrait s'y soumettre. Alors que le point de vue émancipateur n'est pas celui-là. Le point de vue émancipateur, c'est de dire qu'il ne faut plus considérer la nature comme un objet extérieur à dominer ou un objet qui nous dominerait, mais qu'il faut finalement le considérer comme notre en dehors, comme notre enveloppe. Et on nous dit qu'il faut en finir avec la domination et la maîtrise de la nature par l'humanité pour finalement aller vers une domination de l'humanité par la nature, c'est-à-dire se soumettre à des lois naturelles qui se trouvent finalement pas très éloignées des lois économiques. Or, pour moi, je dirais les seules lois qui valent pour la cité, ce sont ni les lois religieuses, ni les lois naturelles, ni les lois économiques. Ce sont les lois que les humains se donnent, c'est-à-dire les lois politiques. Et si on veut en finir avec la dictature de l'économie, on n'a pas 50 solutions. Il faut réaffirmer la primauté du politique. C'est-à-dire que les seules lois qui restent valables pour la société, ce ne sont ni les lois religieuses, ni les lois de la nature, qui sont toujours des lois inégalitaires, mais les lois politiques. C'est-à-dire les lois que l'on se donne.
Le fait que l'homme apparaisse à ce point extérieur à la nature et que la loi de la nature soit extérieure et doit s'imposer à l'homme dans le film de Yann Arthus Bertrand, on voit un peu comment ça pourrait intéresser quelqu'un comme le patron de PPR, Pinault, qui lui cherche de son côté à expliquer à ses salariés qu'il y a d'autres lois tout aussi naturelles qui sont celles de l'économie qui imposent aux salariés des renoncements aussi bien salariaux que d'horaires de travail et surtout qui imposent des licenciements. Donc il y a la loi de la nature qu'il faut accepter, la loi de l'économie qu'il faut accepter de la même façon.
La forêt fait place à l'élevage et à la culture de soja. 95% de ce soja servira à nourrir le bétail et les volailles d'Europe et d'Asie. Et voilà comment on transforme une forêt en viande.
Bonjour, vous êtes
de Communique. Bonjour.
Bonjour, je suis bien à la boutique Boucheron.
En quoi puis-je vous renseigner ?
Non, c'est juste parce que j'ai vu votre film, là, vous savez, sur la planète, là.
Oui, 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 tout à fait, le film Home.
Ouais, et ça m'a déprimé, hein. Ouais, je sais plus quoi faire, quoi, ça va vraiment mal.
Oui, oui, tout à fait, effectivement, c'est notre volonté aussi de nous associer à ce film pour effectivement nous engager sur tout ce qui est environnement, effectivement.
Parce que vous l'avez vu, vous ?
Oui, 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 effectivement.
C'est quand même déprimant, hein. Ça fait plusieurs jours que j'y pense, je sais pas quoi faire, quoi.
Oui, tout à fait.
Et puis il y a ma grand-mère. Ma grand-mère, elle l'a vu, elle aussi. Et puis alors elle, attention, elle adore la viande. Elle ne veut plus en manger, seulement elle fait de l'anémie.
Mais écoutez, je peux prendre tout à fait vos remarques, voir si...
Alors, je ne vous explique pas, le médecin derrière... Mais non, madame, il faut quand même manger de la viande. C'est pas facile, hein.
Malheureusement, je ne pourrais pas entrer dans le débat, mais...
Ouais.
Vous souhaitez nous envoyer un email éventuellement, ce serait peut-être plus facile et nous pourrons le transférer effectivement à notre siège. Ça, on aura vraiment toutes vos remarques et je vous en remercie. Bon. Nous pourrons les transmettre.
Bon, bah c'est super.
C'est moi qui vous remercie, monsieur. Au revoir.
Oui, non, mais c'est pas le truc, hein, c'est tous les grands groupes qui maintenant.
Jean-Luc Porc et Canard Enchaîné.
Poursuivre leur croissance et la badigeonne de verre. Or, on sait que la croissance, il n'y a rien de plus contraire à l'environnement. C'est que le productivisme et la consommation à outrance, il n'y a rien de plus con. Il faut voir que c'est quand même. Bon, l'une des enseignes de PPR, c'est Conforama, par exemple. Or, Conforama, si on se souvient bien, c'est quand même eux qui ont acheté 38 000 fauteuils en Chine, qu'ils ont rapatriés, fait venir en France et vendus en France. Alors déjà, on voit, écologiquement, c'est formidable, quoi. On ne les fait pas fabriquer en France, on les fait fabriquer en Chine, on les transborde en France, donc c'est, tout ça énergétiquement est magnifique. Et il s'avérait que ces fauteuils chinois étaient bourrés d'un produit, alors là, j'ai noté le nom parce que c'est très compliqué, c'est le diméthylfumarate, qui est un produit anti-moisissure, parce que ayant quand on fait fabriquer des fauteuils en Chine, là-bas, ils sont les tropiques, il y a des moisissures qui se développent, donc ils ont bardé leur fauteuil. Et il y a des tas de gens qui sont des dizaines de personnes en France qui ont été très gravement touchées. Donc c'est les fameux fauteuils chinois contaminés. Donc voilà le genre de pratique quand même de PPA, de Conforama. Alors bon, ils prétendent être très écolo. C'est un peu.
Vous citez aussi dans votre papier, dans le Canard, l'exemple de la Redoute. La Redoute aussi qui est pas vraiment le modèle de la société écolo, quoi.
Non, la Redoute. Là aussi, c'est des sociétés de distribution qui donc trimballent des marchandises, donc transport de CO2. Surenchère, la Fnac aussi. La Fnac, c'est aussi PPR et c'est aussi une société qui cherche à nous faire acheter de plus en plus de gadgets high-tech et qui pousse à la consommation. Quoi. Donc PPR, c'est un groupe dont l'essentiel est de nous pousser à acheter des produits qui sont pas très écolos.
Dans la nature, tout est lié. L'extension des surfaces cultivées et les monocultures drainent une faune encore plus grande de parasites. Les pesticides, autre cadeau de la pétrochimie, les extermine. Adieu les mauvaises récoltes et les menaces de famine. L'agriculture produit tant qu'il faut désormais gérer les surplus. Mais la majeure partie de ces produits toxiques se dispersent dans l'air, les sols, les plantes, les animaux, les cours d'eau, les océans. Les substances sont-elles nuisibles à l'espèce humaine qu'elles ont délivrée de la faim ? Ces agriculteurs, protégés par leur combinaison jaune, le savent sûrement.
Ce qui est frappant dans le film Home, c'est que toutes les images qui se succèdent, c'est des jolies images. On ne sait pas ce que ça représente exactement. On reconnaît parfois un désert, une banquise, mais ça pourrait très bien être le naufrage de l'Erika, vu de dessus, vu du ciel, vu de haut. Il devait y avoir des belles taches noires. Et ce beau noir que vous vous souvenez qu'on voit dans les peintures de Pierre Soulages, par exemple. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Ce qui est particulier aussi, c'est qu'il n'y a pas d'être humain dans ce film, dans la version d'une heure et demie, comme dans la version de 2 heures. Ils sont loin, ils sont vus de haut. C'est un film qui survole, qui ne fait que survoler. Hannah Arendt donnait du totalitarisme la définition suivante. Le totalitarisme, c'est lorsque l'homme devient superflu.
Alors c'est quelque chose de très simple. On prend un cinéaste, par exemple, qui va tourner un film en hélicoptère. Il émet des gaz à effet de serre. Mais c'est aussi valable pour quelqu'un qui fait un voyage en avion, qui fait un Paris-New York, par exemple. On émet des gaz à effet de serre.
Aurélien Bernier.
Et vous avez des associations ou des boîtes privées qui vont vous proposer de payer en échange de ces émissions. Et avec cet argent, on va financer des projets qui vont absorber des quantités de gaz à effet de serre.
Il est trop tard pour être pessimiste. Je sais qu'un homme, même seul, peut abattre tous les murs. Il est trop tard pour être pessimiste. Chacun peut agir, du plus pauvre au plus riche. Il est trop tard pour être pessimiste.
Alors, c'est un système qui rappelle furieusement le système des indulgences dans l'Église catholique, où en fait vous aviez des péchés, et des péchés qui étaient absous contre une rémunération. C'est-à-dire que bon, le péché était coté, il avait une valeur, et vous deviez payer en contrepartie. Et en fait, on pouvait pécher si on arrivait à payer. Et là, on est un peu dans la même logique, c'est-à-dire qu'on légitime le fait de continuer à polluer à partir du moment où on finance des actions qui répareraient cette pollution. Mais ce qu'il y a de plus grave dans le système des compensations, c'est qu'on colporte l'idée qu'on peut avoir une neutralité carbone. C'est-à-dire que les émissions de carbone, de gaz à effet de serre qu'on va faire aujourd'hui vont être neutralisées parce qu'on va payer pour un projet qui va permettre d'absorber des gaz à effet de serre. Donc par exemple, si on fait un vol en avion, on paye pour aller planter une forêt quelque part sur la planète et on fait croire qu'on a une neutralité. Ce qui est complètement faux, parce que le vol en avion va émettre par exemple une tonne de gaz à effet de serre en quelques heures, et la forêt, la plantation de forêt qu'on va financer, elle va capter cette tonne de carbone, mais en l'espace de 100 ans. Et donc on va en permanence repousser la neutralité, et bien sûr les émissions réelles de gaz à effet de serre iront toujours beaucoup, beaucoup plus vite que ce que la compensation est capable d'absorber. Alors je crois qu'il y a aussi une dimension beaucoup plus perverse, c'est que bon, on habitue les gens à payer pour polluer. On légitime ce principe du pollueur-payeur qui est quand même assez vicieux, parce que ça veut dire qu'à partir du moment où on a les moyens de payer, eh bien on peut continuer à polluer. Et le fait d'habituer les gens à payer pour émettre des gaz à effet de serre, il faut bien le replacer par rapport à une logique qui est quand même assez inquiétante, puisque certains chercheurs, certains gouvernements même sont en train de travailler sur un système de droit à polluer individuel. C'est-à-dire que des individus majeurs, nous tous, aurions un volume de droit à émettre des gaz à effet de serre à l'année. Un capital carbone. Alors d'ailleurs, on parle de carte carbone pour désigner ce système. Donc vous avez un volume X de gaz à effet de serre que vous avez le droit d'émettre à l'année. Et puis, quand vous consommez de l'énergie, vous remplissez votre cuve de fuel, vous payez votre facture d'électricité, vous faites le plein de votre voiture, on vous débite un volume de droits correspondant à émettre des gaz à effet de serre. Et si jamais vous n'avez pas suffisamment de droits, par exemple au mois d'octobre, vous avez épuisé votre volume de droits, eh bien vous avez une bourse qui vous permet d'acheter sur le marché des droits supplémentaires à émettre des gaz à effet de serre.
Notre écosystème ne connaît pas les frontières. Où que nous soyons, nos actions se répercutent sur l'ensemble de la Terre. L'atmosphère de notre Terre est une et indivisible. Elle est notre bien commun.
Et c'est une logique qui rejoint bien sûr celle du marché des droits à polluer qui est actuellement en vigueur pour les entreprises. C'est-à-dire qu'on va, contingenter pour les individus les droits à polluer. Et on va créer un fantastique marché sur lequel les citoyens pourront vendre et acheter des droits. Et tout se met en place dans cette optique-là, et notamment les fameuses étiquettes CO2. Si vous regardez bien, la grande distribution est en train de mettre des étiquettes sur les produits pour afficher le contenu en carbone de certains produits que vous achetez. Et on a déjà des gens qui sont en train de travailler sur l'intégration, pas seulement des consommations d'énergie, mais aussi des produits de grande consommation dans ce système des droits à polluer individuels. Et je crois que c'est ce qui nous attend, alors peut-être pas pour 2010, mais pour d'ici 2, 3, peut-être 5 ans, Et voilà, on va faire du boursicotage à marche forcée au nom de la protection de l'environnement. Et encore une fois, on aura une solution de marché qui va s'imposer et on va complètement dépolitiser la question écologique. Et bien sûr, ça tout le monde l'aura compris, on fera payer le prix de la protection de l'environnement aux plus pauvres, qui sont bien sûr les personnes qui ont le moins de marge de manœuvre dans leur consommation et donc qui, eux, vont devoir soit s'acquitter d'une taxe carbone, soit acheter des droits dans ce système, des droits à polluer individuels.
Nous avons engendré des phénomènes qui nous dépassent. Depuis les origines, l'eau, l'air, la matière, le vivant sont intimement liés. Mais depuis peu, nous brisons ces liens. Ne nous voilons pas la face. Ce que nous savons, il faut le croire. Tout ce que nous venons de voir nous ressemble. Nous avons fait la Terre à notre image. Il nous reste peu de temps pour changer. Comment ce siècle pourra-t-il porter le poids de 9 milliards d'êtres humains si nous n'acceptons pas de faire enfin les comptes de tout ce dont nous sommes les seuls responsables ?
Aurélien Bernier, auteur de « Le climat, otage de la finance ».
Voilà, même les grands groupes commencent à s'y mettre et alertent sur l'ampleur de la crise environnementale. Mais ils propagent une image, une idée de l'écologie qui est totalement dépolitisée. C'est-à-dire qu'on présente le changement climatique comme le résultat des activités humaines et jamais comme le produit d'un modèle économique. Et on a tout un discours sur la culpabilisation de l'individu, où on explique aux gens qu'il faut qu'ils prennent moins leur voiture, qu'il faut qu'ils éteignent les lumières quand ils sortent d'une pièce. Et on oublie de dire que derrière tout ça, on a un système économique ultralibéral qui prospère sur l'exploitation des ressources.
Là, ce que vous décrivez, c'est on est au cœur du sujet avec un groupe comme PPR qui, donc dans ce groupe, il y a des enseignes comme Conforama, dont on sait qu'une partie des canapés sont fabriqués en Asie, puis transportés jusque la France où ils sont revendus, ou une autre enseigne comme la Fnac s'inscrit totalement dans le productivisme qui fait que chacun est amené à changer son parc informatique tous les 2-3 ans, où les produits ne durent pas.
Oui, exactement, et c'est quelque chose de frappant dans toute l'histoire des crises environnementales et la façon dont les pouvoirs politiques ont répondu à ces crises, c'est qu'on essaye toujours d'évacuer la question politique et la critique du système économique. Et notamment, on essaye absolument de préserver le système libre-échangiste. C'est-à-dire ce système qui est en construction depuis plusieurs décennies, qui permet, parce qu'on a levé un certain nombre de barrières, parce que les politiques ont permis par un certain nombre de règles de le faire, aux entreprises d'aller s'installer dans les pays à bas coût de main-d'œuvre, dans les pays où on peut également polluer sans être embêté par la réglementation, et d'y produire à peu près ce qu'elles veulent pour le vendre partout où elles veulent sur la planète. Et ce système libre-échangiste est celui qui nous met dans la crise sociale qu'on connaît actuellement, et celui qui aggrave également la crise écologique, parce qu'il y aura toujours des paradis de pollution, comme on a des paradis fiscaux, dans lesquels les multinationales qui en ont les moyens pourront aller installer leur production, avec des gens sous-payés et avec un environnement qu'on peut exploiter autant que possible. Et je crois que le vrai débat en matière d'environnement aujourd'hui, il est, voilà, est-ce qu'on est prêt à sortir ou non du capitalisme ? Et il est évident que si on refuse de sortir du capitalisme, là, on est condamné à vivre des crises écologiques absolument terribles. Et cette sortie du capitalisme passe notamment et en priorité par la sortie du libre-échange.
Petit Montagne, Jennifer, bonjour, comment puis-je vous aider ?
Oui, bonjour, j'appelais pour vous remercier pour le film.
Le film Rome ?
Voilà, c'est ça.
D'accord.
C'est vraiment très gentil. Hein.
Je vous en prie.
Je pense que ça va vraiment beaucoup aider. Moi, je voulais surtout remercier les collaborateurs du groupe, quoi, qui, au début, on explique bien, c'est vous qui avez fait
voilà,
le film.
Voilà, Gucci,
et tout ça.
Toute la compagnie PPR.
Voilà, c'est ça, c'est bien. Ouais. C'est vraiment bien. Hein. Parce que, par exemple, moi, je sais que mon fils, il laisse toujours couler l'eau quand il se brosse les dents.
Oui.
Toujours. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais quand ils se brossent les dents, les enfants, en général, ils laissent couler l'eau.
Donc voilà, couler l'eau, puis c'est une perte d'eau.
Ça, c'est infernal, hein.
Exactement.
Puis pour leur expliquer que ça abîme la planète.
Exactement, car un jour, l'eau, maintenant, c'est un peu rare, donc un jour, on n'en aura plus, donc il faudra bien les expliquer. Moi, maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire,
Mais il y a mon fils qui est là, parce que moi, j'essaye de lui dire, je lui dis tous les soirs, et ça ne marche pas. Vous ne voulez pas lui dire?
Bien sûr, si vous voulez.
Ouais, Arthur, viens là. Arthur, viens là tout de suite. Voilà, je mets le haut-parleur. Bon, il vous écoute. Tu dis bonjour à la dame? Dis bonjour.
Arthur, bonjour.
Bon, il fait un peu son timide. Ben, il vous écoute, hein. T'écoute,
Adam. Alors, Arthur, pour sauver la planète, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut faire des économies d'eau. Donc, quand on se brosse les dents, il faut donc tourner le robinet, on mouille la brosse à dents et tout de suite éteindre pour pas faire une perte d'eau.
T'entends? Ce que papa te dit tous les soirs? Ah ouais. Bon, ah ouais, non, mais là, maintenant, il est pas content. Ouais. Mais enfin, bon. C'est pas facile, hein?
Non. Voilà.
C'était un reportage de Renaud Lambert du 25 juin 2009. Merci à Jean-Luc Porquet, Aurélien Bernier, Vincent Chenet et Paul Ariès, ainsi qu'aux syndicalistes de la FNAC et aux 88 000 collaborateurs du groupe PPR. À lire Le climat, otage de la finance aux éditions Mille et une nuits, d'Aurélien Bernier. Mais toutes ces informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Céline Bonhomme et Olivier Daligo, réalisation Coy Nguyen et Raphaël Mouterde, assisté d'Agnès Le Bot, chef du répondeur Catherine Pinto. Le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. Dans un tout petit instant, vous retrouverez Carrefour de l'Odéon. Il est 16h sur France Inter. Le Flash avec Arnaud Poulard.
L'UMP défend sa taxe carbone envers et contre tout, une taxe qui a été annulée hier soir par le Conseil constitutionnel qui l'a jugée peu efficace et inéquitable. Le gouvernement doit donc revoir sa copie. L'UMP est évidemment monté au créneau pour défendre Nicolas Sarkozy, notamment Frédéric Lefebvre, le porte-parole du parti qui n'a pas été tendre avec les sages du Conseil. Pour lui, cette annulation est un gage de conservatisme. Enfin, l'autre porte-parole de l'UMP, Dominique Payet, a accueilli cette décision avec une grande satisfaction. Selon lui, l'important, c'est surtout que le Conseil valide le principe de la taxe carbone. Le cauchemar a pris fin pour les deux jeunes filles qui étaient détenues depuis un an et demi en République dominicaine pour trafic de drogue. Graciées par le président dominicain, elles sont arrivées à Roissy ce matin. Et à peine arrivées, elles ont de nouveau clamé leur innocence en affirmant que la drogue qui avait été retrouvée dans leur bagage avait été placée à leur insu. Autre libération en Irak, cette fois-ci, celle du Britannique Peter Moore. Ce consultant avait été enlevé il y a 2 ans avec ses 4 gardes du corps. Il est apparemment en bonne santé et a été confié à l'ambassade de Grande-Bretagne à Bagdad. En Iran, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées aujourd'hui dans plusieurs villes du pays pour affirmer leur soutien au régime de Mahmoud Ahmadinejad. Une manière de dénoncer le comportement des opposants. Le chef de la police nationale a également envoyé un message sans ambiguïté aux contestataires. Il sera sans pitié s'ils poursuivent leur mouvement. Je vous rappelle que plusieurs centaines d'opposants au régime sont toujours détenus actuellement en Iran. Enfin, on termine sur une note plus légère, mais avec une question qui tracasse quand même beaucoup de parents. Que faire de ces enfants le soir du réveillon? Comme chaque année, évidemment, les babysitters sont très sollicités, mais les agences de service à la personne proposent des forfaits pour la soirée sur Internet. Les annonces se multiplient. C'est un reportage de Gaëlle Fontenay.
Un réveillon sans les enfants, beaucoup de parents en rêvent, mais ça coûte cher. Alain Grossman dirige Général des Services. Une dizaine de familles tourangelles fera appel à son réseau de babysitters la nuit de la Saint-Sylvestre.
L'approche des fêtes, que ce soit celle de Noël ou celle du jour de l'an, sont toujours des périodes très chargées pour nous. On est énormément dans la dernière minute, puisqu'ils font beaucoup de réactivité, puisque les gens, généralement, on est leur dernier recours. C'est-à-dire qu'ils avaient prévu quelque chose, ça tombe à l'eau, donc ils vont se tourner vers nous. Le prix est environ d'une vingtaine d'euros par heure, auquel il faudra ajouter un surplus, puisque ça va être du travail de nuit à partir de 21h. Et si effectivement la garde se prolonge au-delà du premier de l'an, à minuit, eh bien il y aura un surplus pour un jour férié.
30 euros l'heure en moyenne, soit un tiers de plus qu'en temps normal, ce qui peut faire plus de 150 euros la soirée. Une solution trop coûteuse pour certains parents. Ils sont nombreux à laisser des annonces sur le net. Aminata, par exemple, voudrait faire garder ses jumeaux de 3 ans.
C'est plus facile de trouver une nounou via Internet et les tarifs sont beaucoup moins chers. C'est plus abordable que de passer par une agence.
Pour l'instant, elle a déjà reçu 2 réponses et pour les retardataires, pas de panique. Dans les agences comme sur le net, les offres sont légion.
Un reportage de Gaëlle Fontenay de France Bleu Touraine.
France Inter présente Michel Piccoli et Pauline Étienne dans Le Bel Âge, un film de Laurent Perrault, actuellement au cinéma.
J'ai une petite fille, elle s'appelle Claire, un fort tempérament.
Claire, jeune fille de 17 ans, vit seule dans une grande demeure avec son mystérieux grand-père. Ils sont fiers et insoumis. Elle en quête d'avenir, lui tourmenté par son passé. Ils sont tous les deux dans Le Bel Âge. Retrouvez Le Bel Âge dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com.
Service public, Olivier Jesbert.
Notre tour de France des régions à moins de 3 mois des élections. Transport, santé, poste, éducation, énergie. Quelles sont les batailles et les initiatives locales 2010 en matière de services publics? Vos témoignages demain dans Service public.
Service public, pour mieux décrypter tous les pièges de la conso, du lundi au vendredi à 10h.
France Inter.
La différence.
16h04 sur France Inter, l'heure du carrefour de l'Odéon, et c'est évidemment avec Frédéric L'Odéon. Bonjour.
Bonjour Arnaud.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, l'année s'achève et donc l'année Haydn, l'année Handel, l'année Mendelssohn s'achève aussi. Et puis celle de Purcell, mais Purcell, on n'est pas absolument certain de sa date de naissance. On peut le célébrer quand même, ça n'empêche pas qu'on retrouvera tous ses auteurs avec plaisir, bien sûr, pendant les années suivantes. Pour commencer, Joseph Haydn avec un cube qui vient de paraître, un coffret chez Sony Classical. Donc le coffret, ça a l'avantage qu'on a toutes les symphonies. Quelquefois, on peut préférer avoir des interprétations différentes par des chefs différents, des orchestres différents. Bon, ça, c'est une question de goût. Mais là, c'est une somme. Dans cette somme, je vais prendre la 18e symphonie, symphonie de jeunesse. Alors, les numéros chez Haydn sont assez flous. Il y a des erreurs, mais bon, on ne peut pas maintenant être certain que telle symphonie a été écrite avant ou après telle autre. On va garder ces chiffres anciens. 18e symphonie, Allegro Molto. De toute façon, c'est du bon pain, comme toujours chez Haydn. C'est sympathique, c'est jovial, c'est optimiste, tout ce qu'il nous faut en cette fin d'année.